au café de la mort.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit.
Avec Christian Hervault et Jean-Paul Souzède.
La mort. La mort.
Bonjour, chers amis, auditeurs et auditrices. Et bonjour Jean-Paul Souzède.
Bonjour.
Vous êtes encore parmi nous.
Oui, exactement. Ah,
voilà, vous tenez le coup malgré que nous parlions d'un sujet fort désagréable pour certains.
Oui, mais en même temps, parler de la mort, c'est parler de la vie.
Mais oui, c'est ce qu'on dit souvent, mais enfin quand même, des fois ça fait grincer un peu des dents ou des oreilles.
Exactement.
Mais nous continuons vaillamment notre café de la mort. Et aujourd'hui, il nous est apparu que dans les services funèbres que nous assurons de temps en temps, Jean-Paul Souzède, moi-même et bien d'autres, notamment les pasteurs, et dans les entretiens peut-être que nous pouvons avoir avec les familles, celle-ci nous parle de la fin de vie de leurs proches. Comment ça s'est terminé? Et donc, quelquefois, il y a des morts brutales, subites, violentes. Et puis, tout d'un coup, la personne aimée n'est plus là. J'ai eu le cas d'une personne chez qui je suis allée. C'était la dame qui avait tout d'un coup vu son mari qui était assis à côté d'elle.
Comme ça,
et hop,
subitement.
C'était terminé. Et donc, c'était vraiment incroyable, quoi.
D'un instant à l'autre.
Ça peut être des cas comme ça, entre guillemets, cas. Enfin, voilà, des choses qui arrivent. Mais quelquefois, il y a un temps assez long de fin de vie. Et alors là, on s'est demandé, Jean-Paul Souzède et moi, comment les proches réagissent? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Dans quelles conditions ça se passe, comment on peut être, qu'est-ce qu'on peut faire, dire ou rien faire, rien dire. Voilà, tout ça, Jean-Paul Souzède, c'est pas facile, la fin de vie des proches et des personnes qui ont quelquefois une maladie et les traitements sont assez longs. Donc, on passe par des phases. Vous connaissez bien ça, puisque vous nous avez dit que votre fille avait eu un cancer. Et peut-être, c'est peut-être un témoignage aussi que vous pouvez donner vous-même sur ces moments un peu où on espère après. Et puis après, finalement, ça se termine. Donc, comment les proches, la famille, les parents, si c'est un enfant, justement, comment on se sent? Comment on est? Qu'est-ce qu'on peut... Comment on peut être?
On est mal souvent parce que la mort nous confronte, c'est pas nouveau, à l'inattendu, à l'imprévu, parfois même à l'impensable, et en tous les cas à l'inconnu. Et du coup, on n'est pas bien. C'est une fonction de notre humanité que face à l'inconnu, il y a quelque chose qui est insécurisant, justement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'il y a après, s'il y a quelque chose après, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, du coup, ça fait bien sûr de l'insécurité. Et je trouve que dans vos questions, il y a énormément de situations qui peuvent être évoquées et elles sont toutes singulières. Et je trouve que c'est important que chacun puisse se dire la manière dont j'ai accompagné un être cher, c'est une manière singulière. Il n'y a pas de modèle. Et peut-être que si on réfléchit à sa propre mort aussi, c'est intéressant de se poser la question de dire tiens, comment moi j'aimerais mourir aussi? Qu'est-ce que j'aimerais dire? Qu'est-ce que j'aimerais vivre avant ma mort? Et si je mourais dans 3 jours et que je le sache, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Néanmoins, je trouve que ça me pose une question pour ma propre mort et pour la mort des êtres chers, qui est de comment on se quitte, comment on dit adieu, comment on se sépare. Et quels sont qu'est-ce qui nous paraît essentiel? L'autre jour, un ami me racontait justement la mort d'un proche en disant on n'a jamais pu en parler. Jamais pu parler de sa maladie, jamais pu parler de la mort, jamais pu parler de la vie, de ce qu'on quittait, de ce à quoi on allait renoncer. Et ça, c'était très blessant, mais c'était sans doute la situation de la personne qui allait mourir, de ne pas vouloir en parler, elle n'était pas en mesure de le faire, ou en tout cas, elle préférait rester dans quelque chose du vivant, même si son état de santé se dégradait sérieusement, plutôt que d'aller envisager sa mort. Moi, avec ma fille, j'ai beaucoup regretté, quand elle était dans ses derniers jours en soins palliatifs, de ne pas arriver à pouvoir en dire plus sur quelle était notre relation, comment on se quittait. Il y avait quelque chose d'elle qui n'était pas... J'ai fait des tentatives, hein, bien sûr, mais je sentais que ça ne répondait pas. Et elle était comme si on allait continuer à se voir. Donc, il n'était pas question de faire un bilan ou de faire des mots d'adieu pour se remercier mutuellement, pour se pardonner peut-être de ce qui avait pu être vécu de façon maladroite ou ce qui avait pu être dit de façon blessante. Et on n'a pas eu cette opportunité-là parce que je sentais qu'elle n'était pas disponible pour ça malgré mes tentatives d'ouvrir le sujet. Donc, pour moi, ça me reste comme un chagrin de ne pas avoir su clore, de ne pas avoir su dire ces mots où on se quitte. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans notre société, on se quitte un peu, on se quitte sans se quitter. C'est intéressant de regarder comment on dit adieu. Adieu, ça veut dire que, enfin, dans notre langage courant, en tous les cas, c'est qu'on ne se reverra plus. Mais on est toujours à dire que même on pourrait se revoir. Enfin, c'est pas fini. On a du mal à quitter de façon définitive en disant ben non, on n'a plus l'occasion de se revoir. Je le vois même en thérapie, dans ma fonction de thérapeute. Quand je termine des chemins d'accompagnement, d'un travail de thérapie, et que c'est la dernière séance, c'est une question que je me pose et je suis très vigilant à comment nous allons nous quitter. Mes clients, les patients ont toujours tendance à dire à bientôt ou au revoir, ou on se reverra à l'occasion. Et moi, je pourrais être incité à dire voilà, vous avez mon téléphone, donc vous pouvez me rappeler. Sous-entendu, comme si le travail n'avait pas été suffisant, qu'il fallait qu'on se revoie. Alors que je trouve que c'est important d'apprendre aussi à se quitter, au risque de ne plus se revoir, mais ça fait partie de notre existence. Et je trouve qu'il y a une forme de leurre et peut-être d'illusion à ne pas oser fermer la porte complètement. Alors je sais que c'est douloureux parce que c'est une forme de deuil, c'est une forme de séparation. Donc on a des mots, y compris dans les cérémonies d'enterrement, comme si on allait se revoir, peut-être, mais j'en sais rien. Pour l'instant, on s'est quitté. Pour l'instant, la forme humaine de la personne, la relation qu'on a eue, elle n'aura plus lieu sous cette forme-là, en tous les cas. Et je trouve que c'est important de ne pas laisser quelque chose d'entrouvert, de ne pas laisser traîner et d'oser quitter, d'oser fermer.
Mais il faut effectivement que la personne en face... elle soit suffisamment prête. Et là, en tout cas, pour ce qui est de votre fille, Jean-Paul Sauzède, elle était jeune aussi. Donc, il y a aussi cet aspect de l'âge, je pense. Pas forcément la même chose quand on a 85 ou 90 et qu'on sait qu'on arrive au bout de sa vie de toute façon. Ça va être bientôt, un petit peu avant, un petit peu après. Bon, on préférerait peut-être que ça soit un peu après, quoique.
Quoique.
Quelquefois, on préférerait que ça soit tout de suite et puis que ça ne traîne pas tant que ça. Et il y a quelque chose, c'est vrai, dans notre société aussi, de faire durer la vie le plus longtemps possible, hein, avec justement des soins adaptés et puis beaucoup de traitements nouveaux, où on dit, on essaye de maintenir à tout prix la vie de la personne, quelquefois même un peu contre sa volonté, il faut dire. Mais ça, nous en reparlerons dans un autre vaste sujet.
Exactement.
De l'aide à mourir et la loi actuelle, etc., qui vient d'être votée. Et ça fera l'objet d'une ou deux émissions, même tellement le sujet est complexe. Mais c'est vrai qu'il faut sentir, comme vous l'avez dit, que l'autre en face veut bien adhérer à cette fin de sa vie.
Oui.
Et c'est peut-être ça qui est complexe. Alors, ça veut dire aussi que, quelque part, on doit en parler aussi avant mais la maladie, ça n'avertit pas. Hein. Elle est là, pof, et puis on est pris avec ça.
L'accident, c'est ça, l'accident,
encore
pire.
On est complètement chamboulé, la personne, notamment les parents. Si c'est un enfant, c'est tellement bouleversant que... on n'a pas les mots trop pour dire les choses. Donc, il faut qu'il y ait un peu une adhésion, une adéquation entre les deux.
Oui, et en même temps, je pense que c'est des sujets dont il est important de parler par avance. Et si on fait cette émission aujourd'hui, si j'organise des cafés de la mort à l'instant T rue Racine à Nîmes, c'est bien aussi pour parler de la mort, pour parler de ces sujets, pour s'y préparer et ne pas être surpris et ne pas être pris au dépourvu, comme si on ne savait pas se dire, on ne savait pas quoi se dire. Alors, je sais que c'est toujours embarrassant, c'est pas simple, dans ces moments où on se sépare, où la mort survient, surtout si c'est de façon un peu brutale. Mais c'est aussi comment dans les familles, avec nos amis, ben on peut aussi ouvrir ces sujets-là et savoir ben, à quoi je veux m'attendre, qu'est-ce que j'aimerais vivre, qu'est-ce que j'aimerais partager avant ma mort, comment j'aimerais vous quitter, comment j'aimerais être quitté.
Quelquefois, ce qui fait un petit peu peur aussi, c'est un peu l'idée de devoir réfléchir à des temps anciens et peut-être douloureux ou conflictuels. Notamment. Là, quelquefois, je pense que la personne mourante n'a tout simplement pas la force de remettre sur le tapis des choses. Ça vient de... Il faut qu'elle adhère au fait que pour l'autre vivant, ça soit nécessaire.
Oui.
Et ça, c'est aussi un travail personnel. Voilà. Alors, quelquefois, la relation a été facile de parole. Donc, ça coule de source peut-être, mais quelquefois pas du tout. Et la personne se ferme forcément, ou n'ose pas, ne sait pas à quoi dire, et puis n'a pas envie de rentrer dans des détails. Voilà, quelque chose de prise de tête, je dirais, à la fin de sa vie. Ça va, c'est bientôt fini.
Oui, n'en rajoutons pas.
Oui.
Et en même temps, moi j'ai la croyance, mais c'était une croyance que j'ai, que c'est aussi des moments sur la fin de sa vie où j'aurais moi envie de partir léger, ou en tout cas pas encombré de mes culpabilités, de ces moments, de ces paroles, de ces actes que peut-être j'ai trouvé blessants et qui me continuent à m'habiter, quand bien même je suis un bon protestant habité de la grâce. Ça n'empêche que je garde parfois des formes de culpabilité ou de regret. Sur ce que je n'ai pas fait ou sur ce que j'aurais dû faire. Et je trouve qu'au moment de la mort, ça peut être intéressant, important, c'est la croyance que j'ai, de pouvoir poser ça et sans le lâcher, voilà, le nommer avec la personne concernée ou pas d'ailleurs. Ça peut être la fonction du visiteur, ça peut être la fonction du pasteur, du prêtre, de pouvoir déposer ces... J'ai pas envie de partir avec mes poids de la vie.
Oui, mais ça, c'est votre... Je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, moi, personnellement. Mais je pense que ça doit venir de la personne qui est en train de terminer sa vie
tout
aussi.
Tout à fait.
Il faut qu'elle adhère vraiment à ça, il faut qu'elle ait envie aussi. Et souvent, c'est vrai, soit avant, au moment où on est malade, où on sait que peut-être ça sera la fin dans peu de temps, on ne sait jamais, hein, mais ou qu'on est dans les soins, les derniers soins, qu'on appelle les soins palliatifs, et qu'on se dit que peut-être, si on admet que la vie va se terminer, là, on a envie de mettre des choses au point, enfin, là, déculpabiliser,
oui.
De réfléchir à des moments où des choses n'ont pas été dites.
Je repense, là, j'ai eu plusieurs situations comme ça. Un des conjoints qui décédait disait à sa compagne, à sa femme, « Je te remercie pour tout ce qu'on a vécu, c'était bon. Voilà, » Et je trouve que de pouvoir remercier l'autre dans ce moment où on se quitte, de pouvoir lui redire sa reconnaissance, c'est précieux. Un autre me disait « Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux de rien et je te quitte, mais je ne t'en veux de rien. » Ce qui est aussi, je trouve, très libérant. Ma mère, elle ne parlait plus à ma sœur aînée depuis une quinzaine d'années. Il y avait un conflit entre elles qu'on n'a jamais bien compris, enfin qu'importe. Et avant de mourir, je disais à ma mère, mais est-ce que tu voudrais revoir ta fille aînée? Et elle m'a dit, ah non. Et ça m'a... Je me dis, mais comment elle peut partir avec cette rupture de communication, de cette rupture de lien, sans renouer quelque chose, quoi, sans apaiser ce lien brisé? Bon, c'était son choix et je sais qu'il y a plein d'histoires familiales où des gens ne se revoient plus et ne veulent plus se revoir. Et de partir avec cette... ce que moi, j'interprète, hein, c'est mon interprétation comme un poids, comme une question de blessure. Je trouve ça dommage. Voilà. Je trouve qu'au moment de quitter, c'est dommage que ça soit, qu'il n'y ait pas une sorte de réparation, en tout cas d'apaisement de quelque chose qui était lourd à porter et encombrant. Et je crois que les visites aux personnes mourantes, elles servent aussi à ça. Ce n'est pas seulement du soutien, c'est aussi être disponible pour accueillir ces derniers mots, ces pensées qui encombrent ou qui reviennent de façon récurrente, parfois envahissante, et qui peuvent être là déposées dans l'oreille d'un confident, ami ou proche, parent. Et c'est précieux. On a dit d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il y a plein d'études maintenant qui montreraient que les gens qui sont dans des comas ont néanmoins une conscience qui reste présente et alerte. Et je trouve que moi, j'ai accompagné comme ça des gens qui étaient dans le coma et c'était important de leur parler. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi à parler, à nommer. Et parfois, ça aide ces personnes qui sont dans le coma et qui vont peut-être mourir. Ça les aide à partir. De les libérer d'un certain nombre de poids, de tâches, d'encombrements qu'on a pu vivre avec eux, ou simplement de leur dire, ben voilà, tu peux partir, tout est bien et on va assurer pour le reste de la vie.
Je pense effectivement que c'est important de partir apaisé des deux côtés. Peut-être nous allons faire une petite pause de musique, Jean-Paul Sauzède, et vous avez proposé une chanson.
Ah oui,
cette fois-ci, c'est vous qui avez proposé. Alors allez-y.
C'est une chanson de Clara Isée qui est dédiée à sa mère, qui est une femme qui avait, en voulant sauver des enfants de la noyade, s'est elle-même noyée.
Oui.
Voilà, c'est une chanson à sa mère.
Oui, c'est une très belle chanson de Clara Isée que nous écoutons maintenant.
Lettre à M.
Et puis nous revenons ensemble pour continuer nos conversations au sujet de ce passage de la vie à la mort de nos proches et bien sûr de nous-mêmes aussi, ouais. Hein, d'une certaine façon.
Aujourd'hui tu aurais une année de plus et moi peut-être je serais tout aussi perdue, mais je me réjouirais de ta venue. Aujourd'hui on aurait fêté le printemps qui arrive le jour de tes 56 ans et on aurait bien ri pourtant. Aujourd'hui j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en laisser. Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? Aujourd'hui tu aurais quelques cheveux blancs et moi peut-être le visage moins enfant, on rirait de ce qui change avec le temps. Aujourd'hui on se dirait nos éblouissements, tu offrirais ton visage au vent, oh les cœurs notre amour est grand. Aujourd'hui j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en lasser. Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger?
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous venez écouter en DAB+, ou sur nos podcasts, et vous savez qu'ils sont nombreux et variés, ces podcasts, sur radioallianceplus.fr. Donc je vous convie à tapoter Radio Alliance Plus, et puis vous saurez plein de choses, et notamment vous pourrez peut-être écouter ou réécouter notre émission de ce jour, du Café de la Mort, avec Jean-Paul Sauzède, thérapeute, de couple, mais pas que.
Mais pas que, exactement, c'est ça.
Et puis, qui anime le Café Mortel à l'instant T rue Racine chaque mois. Et c'était mardi dernier.
Voilà, prochaine fois, 17 mars, mardi 17 mars.
Mardi 17 mars pour le prochain, voilà, ouais. Notez-le déjà. Et nous étions en train d'évoquer, Jean-Paul Sauzet et moi-même, justement la relation que l'on peut avoir dans les derniers moments de la vie d'un de nos proches ou amis, enfants, parents, et qui, une des fois, c'est une mort qui se prolonge, je dirais, qui a plusieurs étapes. Et donc, comment être dans les visites, par exemple, si on n'arrive pas trop à parler, comment on peut être, d'après vous?
Moi, je crois que j'ai retrouvé une expression, ça, qui est tout à fait banale, hein, qui est tenir la main. Et je trouve que tenir la main de quelqu'un qui est mourant, ben c'est précieux parce que c'est une présence, bien sûr, et ce n'est pas rien d'être présent avec l'autre. C'est un contact physique, et parfois, quand on est un peu dans le coltard ou out psychiquement et intellectuellement, sentir ce contact-là est précieux. Et puis, symboliquement, c'est une manière d'accompagner l'autre autant que nous pouvons, parce qu'on n'est pas avec lui, on n'est pas dans ce qu'il fait et dans ce qu'il vit, mais c'est une manière précieuse, je trouve. Et j'aime bien cette expression d'accompagner, de tenir la main.
Des gestes, donc, oui. Des gestes d'affection.
Et je trouve que c'est intéressant de se dire, tiens, aujourd'hui, qui me tient la main? De qui je tiens la main et qui me tient la main dans ma vie aujourd'hui? Et si demain je meurs, qui me tiendra la main? Je trouve que c'est des questions assez émouvantes, parce qu'à la fois, on peut avoir plein d'amis, plein de relations, mais il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui est là et qui sera prêt à être là à ce moment-là, dans ces moments-là. Et tenir la main, je trouve que c'est déjà beaucoup. Après, la difficulté, c'est que comme on est très embarrassé, ou la mort n'est pas quelque chose qui nous est familier, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, et le jour où on le connaîtra, on ne pourra plus en parler, on est parfois, je trouve, très... Je suis moi-même... maladroit, avec des mots qui sont déplacés, et parfois je trouve que une visite courte, une qualité de présence apaisée et tranquille est parfois plus précieuse que mon agitation, les informations que je veux partager. Parfois le malade voudra, ou la personne mourante voudra juste qu'on prenne le thé, qu'on regarde la télé ensemble. Pourquoi pas? C'est une manière de tenir la main, d'être là avec l'autre.
De la présence avant tout.
C'est la question de la présence. Voilà. Et c'est pas simple, hein, d'être présent. Ça demande une forme d'être posé, de savoir s'arrêter, se poser là, et puis juste être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se vit, sans nécessairement vouloir combler les silences, sans nécessairement vouloir animer l'autre, comme s'il fallait être un sujet soi-même d'animation. Mais être là.
Il y a la question de prendre du temps avec la personne, c'est-à-dire pas être trop pressé.
C'est ça.
Savoir prendre le temps, parce que quelquefois on est ému, on est attristé aussi de la fin de vie proche.
Bien sûr.
Hein, de la personne aimée. Et donc, on a envie un peu de s'en aller, parce qu'on n'arrive plus à supporter.
Bon, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire.
On ne sait pas trop quoi dire. Alors que prendre du temps, je pense, c'est vraiment honorer la personne qui est devant nous.
C'est ça.
Dire, tout simplement, je t'aime suffisamment pour être avec toi dans ce moment
Et te donner des minutes de mon temps et de ma vie pour être avec toi.
Ouais. Alors, je crois que c'est bien aussi de peut-être soi-même, alors en face d'un mourant, d'une personne qui va terminer sa vie, de se faire aider soi-même, peut-être aussi par des amis, ou par discuter avec les soignants aussi, peut-être, parce que eux voient la personne autrement, ils se rendent compte d'autres choses que nous-mêmes. Quand on arrive un peu comme ça, si c'est à l'hôpital, toujours un peu stressant. On peut se faire aider, je pense, par des pasteurs, et puis aussi par les aumôniers. Je pensais à ce rôle des aumôniers dans leur présence silencieuse aussi.
Et des visiteurs d'hôpitaux, qui
visiteurs
sont laïcs,
d'hôpitaux.
Tout à fait, et parfois qui ne sont, sont pas nécessairement issus d'un mouvement d'église. Il y a des visiteurs d'hôpitaux tout à fait laïcs, je dirais, et je trouve que c'est précieux. Et puis, je trouve qu'il faut honorer les personnels soignants, là, comme vous venez de le dire, parce qu'ils sont particulièrement bien formés et ils savent faire, ils savent les gestes, ils savent le rythme de soins, de paroles, d'attention, des mouvements qu'il y a à faire dans les toilettes, dans la nourriture, dans les différents mouvements autour d'un malade. Et je trouve qu'il y a vraiment eu des gens qui sont remarquablement bien formés dans les soins palliatifs, dans les hospitalisations à domicile. Et je trouve qu'il faut honorer ces gens qui sont là toutes 24 heures, enfin 24 heures, le temps de leur travail en tous les cas, à accompagner des personnes mourantes. Et qui souvent ont de l'attachement pour elles. Dans nos enterrements que nous organisons, vous-même et moi, on voit bien que les gens, les accompagnants professionnels viennent souvent assister aux services funèbres. Pour dire aussi leur attachement et pour dire que c'est aussi une manière pour eux de quitter.
Il y a des très belles relations, oui. Hein, entre les personnels soignants et
on a beaucoup
les
de chance
personnes
dans notre...
qui vivent oui. leur dernier c'est moment et les personnes et la famille.
Ben oui, on a beaucoup de chance dans ces organisations de soins autour de l'accompagnement des mourants. Je trouve qu'il y a de belles organisations et des personnes remarquables.
Je vous propose justement d'en parler ben, la fois prochaine. Il y a par exemple toute la question des soins palliatifs, de ces moments de soins particuliers. Et je pense que ça sera l'objet de notre prochaine émission. Nous espérons pouvoir peut-être avoir un invité pour nous expliquer d'une manière plus précise
les tenants et les aboutissants de la loi.
Du point de vue professionnel, du point de vue, voilà, ce que sont les soins palliatifs, par exemple. Donc, nous espérons pouvoir faire une émission assez large là-dessus, là, le mois prochain, lorsque nous nous rencontrons de nouveau, Jean-Paul Sauzet et moi-même, autour du Café de la Mort. Voilà, il ne reste plus qu'à nous dire au revoir.
Merci.
Et un bon mois. Et le café mortel le 17 mars à l'instant T à 18h30.
Exactement, merci.
À bientôt, Jean-Paul.
Au revoir.
La mort.